Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale, votre radio, dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Hermine Roumilac de la rédaction chinoise, Kariana Branco de la rédaction en portugais, et pour la rédaction en anglais, Angela Diffley.
Hello everybody.
Sur RFI, toute cette journée est consacrée à la crise économique liée au Covid-19, ses conséquences et surtout les initiatives mises en place pour limiter la casse autant que faire se peut. Covid-19, comment éviter un naufrage économique, c'est donc maintenant dans Action du Monde. Alors, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde. Le plus grand nombre de cas, le plus grand nombre de victimes, ce qui a d'ailleurs largement contribué à la défaite de Donald Trump lors de l'élection présidentielle. Angela, comment se porte cette économie américaine, sachant que le coronavirus fait des dégâts dans tous les domaines?
Oui, l'économie américaine, comme partout, beaucoup d'entreprises ont cessé leurs activités. Beaucoup vont sûrement être obligés de fermer définitivement aussi. Et comme partout, les petites entreprises ont été fortement touchées par la pandémie. Des millions de familles américaines vont souffrir et souffrent déjà. Et pendant tout ça, le Congrès américain n'arrive pas à trouver un accord pour venir à leur aide. C'est étonnant. Les négociations qui avaient commencé cet été, mais qui n'avaient pas abouti en raison des désaccords très profonds et exacerbés par la campagne électorale, ben les négociations ont enfin repris. Il faut qu'ils trouvent un nouveau plan de relance qui va prendre le relais de celui adopté au mois de mars. Et c'est urgent parce que les aides accordées en mars arrivent à expiration à la fin de cette année.
Et d'ailleurs, les négociations au Congrès ont repris donc après la pause marquée par la campagne présidentielle. L'enjeu est majeur pour les États-Unis qui risquent une nouvelle récession au quatrième trimestre de cette année. En tout cas, ce sont déjà des millions de familles qui sont confrontées au chômage et à tout le moins subissent une perte de leurs revenus.
Tout à fait, c'est vraiment urgent. Et le directeur de la grande banque JP Morgan, Jamie Dimon, c'est le nom du directeur, il a fortement critiqué le Congrès américain cette semaine, c'est pas le premier de les critiquer pour cette impasse. Jamie Dimon a dit, il a parlé, et je cite, du comportement enfantin de nos politiciens. Donc, espérons qu'ils vont parvenir à se mettre d'accord sur un plan stimulus. Cela dit, une chose qui est intéressante de noter, c'est que jusqu'à aujourd'hui au moins, l'aide pour survivre à la crise aux États-Unis n'est pas livrée de la même façon qu'en Europe, par exemple. Aux États-Unis, ils partent de l'idée que si une boîte ne peut pas payer ses employés, on n'intervient pas. Les gens perdent leur travail et ils touchent le chômage. Mais en revanche, au mois de mars, le gouvernement a augmenté massivement le budget pour les aides sociales et les allocations aux gens qui perdent leur travail. Les Américains préfèrent permettre au marché de faire son travail. Ils ne veulent pas subventionner des entreprises qui sont peut-être destinées à couler. Plus tard, on ne sait pas. Mais ils sont quand même prêts à venir à l'aide des gens, des individus, des personnes qui perdent leurs emplois.
Cette épidémie a éclaté en Chine, on se souvient plus particulièrement dans la ville de Wuhan, c'était en janvier. Hermine Roumilac, oui, de la rédaction chinoise, apparemment la situation est sous contrôle, alors que les pays occidentaux, comme les États-Unis, on vient de le voir, peinent à sortir de cette crise sanitaire.
Oui, en fait, le confinement soudain et total de cette ville de Wuhan, que vous venez de prononcer le nom, qui est très difficile à prononcer pour pas mal de gens d'ailleurs, le 23 janvier dernier a attiré l'attention du monde entier. Et vous avez vous rappelez des images des rues vidées, des hôpitaux bondés, des patients ou des personnes allongées carrément dans la rue. Cela a fait la une des journaux du monde entier. Mais 10 mois après, aujourd'hui, la situation est totalement inversée. En fait, la Chine a réussi, on pense, à maîtriser la situation. Selon les chiffres officiels, elle a compté en tout 86 388 cas positifs avec 4 634 décès Aujourd'hui, il y a encore 311 patients hospitalisés avec un seul cas grave.
Alors, vous précisez bien, hein, ce sont des chiffres officiels. Oui. 4634 décès, alors qu'en France, rien qu'en France, on en est à 40 000. Hermine, comment les autorités chinoises, en tout cas, s'y sont prises pour obtenir ce résultat officiel?
C'est parce qu'ils ont utilisé des mesures extrêmement strictes, difficiles à imaginer qu'on peut faire ça en France d'ailleurs. En fait, les cas positifs en Chine, une fois c'est confirmé, ils ont été imposés à isolement complet avec leur famille. Ils sont surveillés de tout près et la ville de Wuhan a installé, on se souvient, des lits de campement dans les stades pour isoler des cas avec des symptômes légers. Il y a 3 hôpitaux qui ont sorti de la terre en 10 jours. En plus, des cas contacts sont testés systématiquement, voire toute la ville, s'il y a plusieurs cas positifs détectés. En plus, les autorités remontent systématiquement aux patients zéro pour couper carrément la chaîne de contamination. Et ils testent en un temps de record toute la ville pour enlever toutes les soupçons. Toutes ces mesures draconiennes, plus les nouvelles technologies de surveillance ont été largement pratiquées en Chine. Le résultat est là aujourd'hui, donc la situation est maîtrisée selon les chiffres officiels.
Et on reviendra à la Chine tout à l'heure. Avant cela, l'Europe. Angela Diffray, comment ça se passe au Royaume-Uni?
Au Royaume-Uni, au niveau économique, le gouvernement a adopté une attitude qui est un peu comparable à celle de la France. Le gouvernement britannique a favorisé l'idée d'aider les employeurs à garder leurs employés. À cette fin, le gouvernement britannique a lancé au mois de mars un programme qui s'appelle « The Furlough Scheme ». Où le gouvernement prend en charge une grande partie, en général 80%, du salaire d'un employé, là où peut-être leur employeur ne peut pas. Et le but, c'est de permettre aux entreprises de garder leurs effectifs et comme ça de ne pas perdre leurs expertises. Et le furlough scheme devait terminer fin août, mais il a été prolongé jusqu'à, je crois, fin mars.
Mois de mars prochain. Comme partout, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes hein, parmi les chômeurs au Royaume-Uni.
Bien sûr, comme partout. Souvent, c'est parce qu'ils viennent de terminer leurs études ou qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi dans ce climat. Il y en a beaucoup qui sont dans une situation très précaire parce qu'ils travaillent avant le Covid dans la restauration ou l'hôtellerie ou le tourisme, tous ces secteurs qui ont été très touchés par la crise. Pour le reste de l'économie, on parle aujourd'hui d'un possible gel de salaire pour les employés du secteur public l'année prochaine, y compris les travailleurs qui ont beaucoup donné pendant la crise du Covid. Par exemple, les policiers, les profs, les fonctionnaires. Je pense quand même que les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent pour la santé, ils ne sont pas du tout concernés apparemment. Mais tout le monde le sait, le ministère des Finances a besoin d'économiser et ont emprunté et dépensé autant pour combattre le Covid. Donc, d'où vient cette idée de geler les salaires des employés dans le secteur public? Et les salaires dans le secteur privé, on le sait déjà, ont déjà diminué et vont continuer de diminuer.
Et pendant ce temps-là, et le Brexit, dans tout ça, on a l'impression qu'avec le coronavirus, il n'en est plus question, alors que rien n'est moins sûr. Hein.
Absolument. Au Royaume-Uni, cette période est particulièrement difficile pour les entreprises. Ils doivent faire face au Covid, comme partout, mais en même temps, on leur demande de préparer pour le commencement réel du Brexit. Parce qu'à partir du 1er janvier, la période de transition officielle où le statu quo qui existe en ce moment, hein. Actuellement, ça va être terminé. Et toutes les règles d'importation, d'exportation, tout ça va changer. Et on ne sait toujours pas quelles seront les nouvelles règles. Cela va dépendre de l'accord qui est conclu ou non. Avec l'Union européenne.
On n'en a pas fini avec ce Brexit. Hermine, on revient à la situation sanitaire en Asie. Est-ce qu'ils s'en sont sortis aussi bien qu'en Chine?
dans la région, oui, au Japon, je donne encore quelques chiffres, hein. Il y a au Japon 126 000 cas confirmés et 1900 décès. Le pays est en train de vivre vraiment la troisième vague aujourd'hui. Et en Corée du Sud, c'est un peu mieux. Il y a un peu moins de 3 000 cas confirmés et presque 500 décès. Donc c'est peu.
30 000. 30 000.
30 000. Ouais. 30 000 cas confirmés et presque 500 décès. Oui. La Corée du Nord a été le premier pays qui a fermé la frontière avec la Chine. Donc aujourd'hui, officiellement, un seul cas déclaré. Mais j'aimerais bien surtout, parler de Taïwan.
En fait,
donc, qui se trouve juste à côté de la Chine, à quelques centaines de kilomètres de la Chine. Taïwan est considéré comme l'un des meilleurs modèles pour la gestion de cette pandémie. En fait, comme Chine, Taïwan a tiré la leçon de la gestion de SRAS, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2002.
Absolument.
Donc, il y a eu 60 dizaines de morts sur l'île de Taïwan. Donc, les autorités ont immédiatement réagi cette année après avoir alerté par les spécialiste qu'un virus mystérieux similaire à SRAS circulait à Wuhan. C'était au mois de novembre de l'année dernière, en fait. Beaucoup plus tôt que l'annonce officielle de l'OMS. Ils ont alerté l'OMS, mais l'OMS n'a pas pris en compte de cette alerte.
Et Taïwan n'a jamais confiné.
Non, Taïwan n'a jamais confiné. En fait, ils ont tout de suite construit des usines pour fabriquer des masques. Donc, du coup, tout le monde a eu des masques. Donc, Taïwan n'a pas été confiné et les gens vivent presque normalement aujourd'hui. Donc, en tout, il y a 607 cas positifs confirmés et 7 décès seulement pour 23 millions d'habitants.
Et du coup, le pays n'a pas souffert économiquement ou assez peu?
Non, pas du tout. La croissance du PIB de Taïwan est de 3,3%, comme la Chine. Taïwan est aussi l'un des rares pays qui n'ont pas eu de récession après la pandémie. Mais malheureusement, Taïwan est toujours exclu de l'OMS par des raisons politiques. Donc, ils ne peuvent pas partager ces expériences avec les autres pays sur sa gestion de pandémie.
Et comme on parle de l'Asie, j'ajoute ce chiffre annoncé tout à l'heure, hein, concernant l'Inde, deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Le nombre de cas de coronavirus a dépassé la barre des 9 millions. Le Covid a fait plus de 132 000 victimes. L'Inde avait imposé en mars un confinement très strict, mais les restrictions ont été graduellement levées par un gouvernement qui avait à cœur de relancer la machine économique, alors que des millions d'emplois ont été supprimés, ce qui a sans doute contribué à favoriser la progression de l'épidémie, de même que les réticences à porter le masque ou encore le non-respect des règles de distanciation sociale. Karina Branco, est-il possible de garder une lueur d'espoir devant le scénario de catastrophe économique qu'on évoque depuis ce matin sur Radio France Internationale, provoqué donc par cette pandémie? Votre rédaction, la rédaction en portugais, est allée à la recherche, bien évidemment, là encore, de réponses. Hein.
En effet, Philippe, pandémie, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, confinement, distanciation sociale, gestes barrières, dépression. Ça fait au moins 8 mois que la population mondiale entend ces mots tous les jours et franchement, tout le monde en a marre. Alors, il faut commencer par se déconfiner mentalement pour préparer l'après-Covid-19. Cela signifie garder aussi un peu d'espoir. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire écouter le sociologue bissau-guinéen Miguel de Barrouche qui nous dit que la pandémie mondiale est une opportunité pour changer un peu le monde. Alors, pouvons-nous faire de cette dystopie une nouvelle utopie? Élément de réponse avec Miguel de Barrouche.
Foi exatamente o falhanço desse modelo econômico e cultural que nos trouxe a essa pandemia, a devastação da biodiversidade.
Que vous a dit Miguel de Barros?
Alors, il nous dit que c'est l'échec de ce modèle économique et culturel qui a provoqué cette pandémie, notamment la destruction de la biodiversité, la surproduction et la production dans une logique de privatisation des savoirs, de profit comme élément fondamental de la vie. Plus que jamais, il dit que nous sommes devant le plus grand réveil de conscience que le changement est possible. Il faut qu'on reconvertissent les contextes territoriaux dans des centres de production pour un développement durable, pour une transformation économique, politique, culturelle et environnementale. Sinon, on n'aura pas la transformation souhaitée. Les sociétés qui s'engageront le plus pour assumer cette transformation auront le plus de chances de trouver l'équilibre nécessaire pour que ces changements permettent une société plus égalitaire et avec plus de justice sociale.
Alors, ce monde idéal, c'est bien beau, Karina, mais la réalité est quand même plus compliqué.
C'est vrai, Philippe. Malgré les espoirs, les signes de détresse économique sont partout. L'économiste bissau-guinéen Paulo Gomes, qui fait partie du conseil d'administration du Fonds spécial de l'Union africaine contre le Covid-19, nous explique que la catastrophe économique de cette année empire le malaise social.
Ao nível económico, estamos a ver os primeiros sinais da catástrofe disto em termos...
Quelle est son analyse?
Alors, il nous dit qu'au niveau économique, nous voyons déjà des signes de catastrophe au niveau des populations les plus vulnérables, des femmes, des jeunes, des entreprises qui vont fermer. On voit déjà des conséquences énormes sur l'équilibre politique et social. Les crises que nous sommes en train de voir dans quelques-uns de nos pays sont exacerbées par le malaise social. Les pays les plus riches utilisent leurs outils et sont encore en train de tourner le dos aux pays les plus vulnérables. Alors, des gens comme lui ressentent une grande frustration devant ce manque de leadership mondial. Comment éviter un naufrage économique à la suite de la crise sanitaire? Difficile à dire, mais il faut certainement garder d'un côté ce regard très lucide et net sur le réel impact économique de cette crise. Mais d'un autre côté, il faudrait aussi garder une lueur d'espoir que de changements sont possibles, si envie il y a.
Alors, allons aux antipodes à présent. En Australie, avec une polémique, Angela, il paraît que dans le sud du pays, la population a subi un confinement pour rien.
Oui, c'est une histoire incroyable en Australie, dans l'état du South Australia. Écoutez cette voix.
To say that I am fuming about the actions of this individual is an absolute understatement. This selfish
qui parle?
Ça, c'est le State Premier Stephen Marshall qui gouverne le sud de l'Australie.
Donc, c'est le Premier ministre local.
Voilà. Et il exprime son extrême colère après la découverte du fait qu'une personne a menti aux autorités, laissant croire qu'il avait attrapé le virus après une visite très courte à une pizzeria. Les autorités ont cru que la charge virale à cet endroit était particulièrement, très dangereusement forte, et cette idée les a conduits à mettre tout l'État en confinement, avec tout son impact sur l'économie. Et en fait, la personne en question travaillait à la pizzeria et était en binôme très souvent avec un agent de sécurité qui lui aussi a testé positif. Donc c'est juste un charge virale normale qu'il a eu. Et il a attrapé le virus et ça ne voulait pas dire que le virus était particulièrement fort à la pizzeria. Donc, ils ont décidé à la fin d'alléger le confinement dès demain.
Vous écoutez RFI et c'est ADM, Accent du Monde.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Dans le cadre de cette journée spéciale sur RFI Covid-19, comment éviter un naufrage économique? Intéressons-nous maintenant à l'Afrique. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe sont également atteints de plein fouet par la crise et donc par son impact d'un point de vue économique. N'est-ce pas, Karina?
C'est ça, Philippe. Et le malaise social gronde. Voyons l'Angola. La pandémie a empiré la crise économique qui s'aggrave depuis 2016 et elle a mis à nu un mécontentement social et peut-être même un effondrement des espoirs et de l'état de grâce du président João Lourenço. Il y a eu des manifestations, les gens contestent la pauvreté, la montée des prix, un chômage qui touche 34% de la population, dont plus de la moitié de jeunes. Le président avait promis la création de 500 000 emplois pour les jeunes, mais la promesse n'a pas été tenue. Et bien évidemment, le contexte pandémique n'a pas aidé. En plus, l'agence de notation Fitch a prévu une récession de 4% en Angola et la pandémie a provoqué encore une chute du prix du baril de pétrole dont l'économie angolaise est dépendante. Une nouvelle manifestation est convoquée pour demain et une autre pour le 10 décembre, après celle réprimée du 11 novembre et du 24 octobre. Malgré l'interdiction de manifester à cause des restrictions sanitaires, les gens se sont quand même concentrés le 11 novembre, jour de commémoration des 45 ans d'indépendance. La police a réprimé la manifestation, détenu des manifestants et des journalistes et a nié la responsabilité d'un mort, même si des ONG comme Human Rights Watch et Friends of Angola ont dénoncé des abus de la police.
Et la rédaction en portugais de RFI a pu joindre un des organisateurs de cette marche du 11 novembre.
Tout à fait. Nous avons parlé avec Dito Dali. Écoutons-le.
Nous avons l'information de deux morts. si la seconde marche, non est reprimée le 11.
Que vous a dit Tito Bali?
Donc il nous dit que finalement ils ont eu l'information de deux morts, que c'est la deuxième manifestation réprimée et que le 11 novembre, il a témoigné un état policier en Angola puisque la manifestation était nationale et qu'il a eu une ambiance de terreur, ce qui est injustifiable le jour où le pays célébrait 45 ans d'indépendance. Il dit aussi que le président de la République a pu inaugurer un hôtel privé ce jour-là et qu'il y avait plus de 30 personnes qui l'accompagnaient, ce qui constitue un rassemblement de gens. Donc, pour lui, il ne s'agit pas de mesures de restriction contre le Covid-19, mais d'un gouvernement qui manipule la société pour défendre ses intérêts. De noter que cette semaine, finalement, le gouvernement a fait son acte de contrition avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice et Droits Humains qui ont reconnu des excès pendant les manifestations.
Voilà donc pour l'Angola. Karina Branco, intéressons-nous maintenant au Mozambique.
Au Mozambique, la crise sanitaire et économique vient porter un coup encore plus dur à la crise de milliers de déplacés qui sont en fuite dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays, qui est en proie depuis 2017 à des attaques. Depuis entre 1000 à 2000 personnes sont mortes et il y a environ 500 000 déplacés. Face à ce scénario de milliers de déplacés et de violences, la pandémie est presque perçue comme secondaire, même si Cabo Delgado reste la deuxième province la plus touchée et même si dans le reste du pays, l'économie largement informelle est à bout de souffle. Les dernières semaines, il y a eu des témoignages de nouvelles attaques à Cabo Delgado avec des gens qui ont été décapités. Tous les jours, la ville de Pemba reçoit des centaines de rescapés et de déplacés et il n'y a pas assez de nourriture et encore moins de conditions sanitaires pour tout ce monde.
Et vous avez recueilli les propos de l'évêque de Pemba, Dom Luiz Fernando Lisboa.
Tout à fait, et ce témoignage fait froid au dos. Écoutons-le.
Muitos fogem porque foram atacados e outros tantos fogem preventivamente.
Alors, aidez-nous à comprendre ce qu'il vous a dit.
Alors, il dit que beaucoup de gens sont en fuite parce qu'ils ont été attaqués. D'autres sont en fuite avant d'être attaqués parce qu'ils ont très peur à cause des assassinats, des décapitations. Alors, ils se mettent en fuite et abandonnent tout. On estime qu'il y ait 100 000 personnes de plus à Pemba qui étaient déjà surpeuplées. Cette nouvelle vague de gens qui débarquent est en train de surpeupler davantage la ville. Les habitants de Pemba et même toute la province de Cabo Delgado subissent cette guerre parce qu'il y a environ 500 000 déplacés et ceux qui ne sont pas des déplacés accueillent des déplacés ou essayent de les aider.
Et puis la Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tomé-Principe, et là aussi on peut faire un point.
Tout à fait. Laisse-moi ajouter que le secrétaire général de l'ONU par rapport à Mozambique a alerté à maintes reprises sur la crise humanitaire que vit le nord du Mozambique et même le président français Emmanuel Macron s'est déjà prononcé sur Cabo Delgado et a dit sur Twitter que le terrorisme islamique est une menace internationale qui appelle une réponse internationale. N'oublions pas que le groupe français Total prévoit un méga projet d'exploitation de gaz naturel au nord du Mozambique.
Alors maintenant, pour les différentes îles dont je parlais à l'instant.
Donc, au niveau de la Guinée-Bissau, Cap-Vert et Saint-Tomé-et-Principe, donc en Guinée-Bissau, la crise économique exacerbée par la pandémie vient aussi augmenter le malaise social avec une multiplication de menaces de grève dans plusieurs secteurs, santé, fonction publique, transport, aéroportuaire par exemple. Puis au Cap-Vert, Saint-Tomé-et-Principe et même en Guinée-Bissau, le tourisme a été touché de plein fouet. Par exemple, au Cap-Vert, le tourisme est pratiquement à l'arrêt et il représente 25% du PIB du pays. Le pays a perdu 1,5 million de passagers cette année et les aéroports ont subi une chute de fréquentation de 68,5% jusqu'en octobre. Le gouvernement craint que le taux de chômage atteigne presque les 20% en décembre, vu que le pays dépend essentiellement du tourisme. Devant tout ça, juste un petit mot pour la culture qui a aussi un poids économique et qui meurt à petit feu. Les salles de cinéma et de spectacle dans ces pays se vident de public, les musiciens, acteurs, dramaturges, peintres tombent davantage dans la précarité et les voix ont de plus en plus de mal à se faire entendre.
C'est un petit peu comme en France, hein, le monde de la culture, du cinéma est complètement sinistré. Après ce focus sur l'Afrique, réintéressons-nous à la Chine, Hermine Roumilac. La situation économique en Chine, deuxième puissance mondiale, au sortir du Covid, ça donne quoi?
Ça va bien pour l'instant, parce que économiquement, la Chine est aussi l'un des rares pays qui s'en sortent hein, pour le moment, parce que selon les chiffres publiés encore officiels, je cite bien des chiffres officiels, début octobre, le PIB chinois a augmenté de 4,9% sur un an et sur la période de juillet-septembre. C'est moins fort que le 2,5% 2% prévu par les économistes, mais ce résultat confirme la reprise économique de la Chine. En effet, au premier trimestre, comme tous les pays qui a été touché par la pandémie, l'économie de la Chine a connu une pire récession. C'est-à-dire depuis 1976, l'année où le pays sortait de 10 ans de révolution culturelle. Donc c'était à moins 6,8%.
Oui, c'est quand même deux ou trois fois moins que dans les pays occidentaux. Hein.
Moins, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça sort de, la Chine a pris des mesures vraiment importantes aussi. Hein.
Quels sont les secrets, justement, de cette performance économique pour limiter la casse, voire reprendre l'avantage, hein, puisque on a quand même une hausse du PIB. Alors, le PIB, c'est le produit intérieur brut, autrement dit, la richesse, plus 5%. Comment la Chine s'y est prise?
Importation des masques et des produits bureautiques, matériel
bureautique. Exportation,
voilà. Le monde entier des masques, le monde entier en a eu besoin. Et donc, c'était les deux choses qui ont été vraiment le plus demandées, c'est-à-dire les masques et les appareils respiratoires. Et en plus, des portables, des téléphones portables, les ordinateurs que les gens en ont besoin pour le travail à distance. Donc ça fait ponter les exportations de la Chine. Et aussi, la Chine a profité des pays voisins, par exemple l'Inde qui a été succombée par rapport à la Chine un peu plus tard à cause de cette pandémie. Et surtout de l'État, l'intervention de l'État sur les groupes étatiques, c'est-à-dire les entreprises d'État. Le président chinois a renforcé l'autosuffisance chinoise dans les secteurs clés, à recentrer l'activité sur son marché intérieur, selon la théorie de double circulation dévoilée cet été.
Double circulation, c'est quoi?
Double circulation, c'est-à-dire circulation interne et externe. Donc interne, c'est-à-dire qu'on renforce la consommation interne dans le pays. Donc tout le monde sait que la Chine, c'est 1,4 milliard de Chinois, donc c'est un marché immense. Et en externe, ça consiste que la Chine a vouloir trouver des nouvelles destinations pour ses exportations, autres que les pays occidentaux touchés par la pandémie. Nous avons vu le dimanche dernier, le 15 novembre, la signature de RCEP.
C'est le partenariat régional économique global. Hein.
Oui, voilà. Donc, 15 pays d'État signataires comprend la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que les 10 pays membres de l'ASEAN, donc les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, ils représentent environ 30% de la population mondiale et 30% du PIB mondial aussi. Donc, cet accord devrait renforcer encore le poids de la région en général et de la Chine en particulier sur le marché mondial. Et parallèlement, bien sûr, cet accord va créer le bouleversement de la géopolitique générale. Donc, cette puissance pourrait inquiéter le reste du monde. Les États-Unis, l'Europe et l'Inde, qui n'a pas signé cet accord, devraient trouver une solution pour y faire face.
Mais au bout du compte, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que tout va très bien
en
Chine?
Tout va très bien, sauf que le premier ministre chinois a parlé. On l'écoute. Monsieur Li Keqiang, il a dit que la Chine est un pays en développement très peuplé. Si le revenu annuel moyen atteint 30 000 yuan, donc équivalent de 400 euros, il y a encore 600 millions. Écoutez bien, 600 millions, c'est-à-dire presque la moitié des Chinois gagnent 1 000 yuan par mois, c'est-à-dire 125 euros. Donc, il a dit, dans une ville moyenne, cette somme ne suffit même pas pour payer le loyer. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour atteindre la société moderne tant rêvée par le président chinois.
Qui connaît mieux la vraie situation que le Premier ministre?
Tout à fait, oui. Donc il a dit la vérité, mais après il est vite recadré par le président Xi Jinping parce que tout à fait il a...
On peut peut-être écouter ce que dit de tout cela l'économiste chinoise He Qingliang. Écoutons-la.
Oui, He Qingliang. Donc l'autre face de la Chine, il a dit que le chiffre officiel de chômage est de 6%, mais ça ne reflète pas la réalité. Si on compte la population rurale sans emploi, ça doit atteindre 30%. De plus, les dettes sont très très élevées en Chine. Il atteint aujourd'hui 335% de PIB, c'est aussi un record. Donc pour elle, si le gouvernement chinois peut s'en sortir, maintenant il n'y a plus de paquet magique à jouer en fait. Voilà.
Et on voit bien que la situation est quand même très disparate, je vais y arriver, sur le monde, avec une Chine qui s'en sort plutôt bien, d'autres pays qui s'en sortent nettement moins bien, avec des émeutes, de la répression dans certains, et un naufrage économique pour beaucoup d'autres. Au chapitre des dernières nouvelles, sachez que Pfizer vient d'annoncer avoir déposé une demande auprès de l'administration sanitaire américaine pour autoriser en urgence la mise sur le marché aux États-Unis de son candidat vaccin contre le Covid-19 développé avec BioNTech. Ce duo a fait savoir, c'était avant-hier, que son candidat vaccin était efficace à 95% et qu'il ne présentait aucun effet secondaire majeur. C'est donc peut-être la fin du tunnel. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.